Chers amis à l'écoute, heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information sur Radio Prague. Après les journées portes ouvertes de la radio et de la télévision ce samedi, ce sont les musées tchèques qui ont ouvert leurs portes gratuitement aux visiteurs. À Prague, par exemple, des milliers d'amateurs de l'art ancien ont pu admirer les collections du musée national. En plus de cela, les spécialistes du musée présent ont examiné des dizaines d'objets que les visiteurs ont apportés. Certains ont pu apprendre ainsi que la pierre qu'ils possédaient était précieuse, une émeraude ou un rubis par exemple. Les membres des organisations non gouvernementales qui ont vécu l'oppression de l'ancien régime communiste totalitaire protestent contre certains propos du président de la République Václav Klaus, selon lesquels ces organisations auraient une influence néfaste sur la vie de la société. Une lettre de protestation a été envoyée au chef de l'État, car les organisations non gouvernementales considèrent ces propos comme une violation des principes démocratiques garantis par la Constitution. Ce dimanche, un étage du bâtiment national tchèque se trouvant dans le quartier de Manhattan à New York est entré en possession de l'association tchéco-américaine des originaires de Tchéquie. Le bâtiment a été racheté pour une couronne tchèque symbolique par la République tchèque, car l'association n'était plus capable de l'administrer pour des raisons financières. Le bâtiment sera reconstruit et entretenu par l'État tchèque. L'un des plus gros fabricants de jouets au monde, la société Mattel, qui est l'inventeur de la célèbre poupée Barbie, vient d'ouvrir ses bureaux en Tchéquie. Il s'agit de son centre pour l'Europe centrale, la Tchéquie, la Slovaquie et d'autres pays encore. Selon le directeur, Mattel espère beaucoup de son installation sur le marché tchèque et slovaque, et ses projets sont des plus ambitieux avec le lancement de nouveaux produits dans le monde du jouet. Après le festival d'Antibes en France, le festival de Tachov en Tchéquie, consacré au film du monde du silence, est le plus important au monde. Cette année, 90 auteurs de 15 pays s'y sont présentés. Les palmes d'or reviennent sous la forme de la statuette d'une sirène à des Italiens, des Tchèques, un Hongrois, un Allemand, un Polonais et un Autrichien. Au programme pour la première fois, lieu diaporama, des diapositives accompagnées d'un commentaire et de musique. Le jeune pianiste tchèque Jiří Koller, ayant remporté un grand succès avec son récital au Festival international de la musique, le Printemps de Prague, se présentera dans le cadre de la Semaine de la musique tchèque du 23 au 29 mai à l'Expo 2005 au Japon. Naturellement, d'autres interprètes tchèques de grande renommée seront aussi présents. Du beau temps encore après un chaud week-end, mais le temps devrait se refroidir dans les jours à venir avec des précipitations et des orages locaux. Les températures ne tourneront qu'autour des 20-24 degrés. Bonne fête ce dimanche aux Émiles et lundi au Vladimir. C'était les informations sur Radio Prague par Alain Slimanski.
Culture sans frontières. Magda Segertova.
Merci d'écouter Culture sans frontières. Il y a 100 ans, naissait Zdeněk Burian, peintre, illustrateur et dessinateur tchèque, auteur d'une œuvre monumentale à couper le souffle. Sa rétrospective, ouverte pour l'occasion au château de Prague, la plus importante qui lui ait jamais été consacrée, en est une preuve. Elle présente plus de 400 tableaux et dessins de l'auteur. Je vous y inviterai dans un instant. Dans la seconde moitié de l'émission, nous parlerons d'une autre exposition, consacrée cette fois-ci au cinéma. Choisir un seul mot pour caractériser l'œuvre de Zdeněk Burian, un seul mot qui définit en même temps sa plus grande passion, ce serait l'aventure. Enfant prodige, Zdeněk Burian est admis à l'école des beaux-arts de Prague à l'âge de 16 ans. Et dès ce moment-là, il se lance aux côtés de l'élite artistique de la première République tchécoslovaque, dans l'illustration des romans de Stevenson, Verne, May, Kipling ou London. Mais ce qui fera sa gloire, ce qui le rendra immortel pour plusieurs générations de Tchèques, ce seront ses peintures et illustrations d'ouvrages de vulgarisation scientifique, de manuels scolaires aussi, dans lesquels il reconstitue avec la virtuosité picturale des maîtres du XIXe siècle l'univers préhistorique, sa flore et sa faune, tous ces animaux spectaculaires de jadis, et l'homme bien sûr. À partir des années 30, ces reconstitutions paléontologiques, créées en collaboration avec des scientifiques, accompagnent aussi des livres étrangers parus dans plus de 20 langues. Écoutez Vladimir Prokop, le commissaire de l'exposition Burian.
Burian ve světě je znám, to v každém případě. Já jsem nedávno komunikoval s několika lidmi, kteří se dokonce věnují...
Aujourd'hui encore, Zdeněk Burian est connu et reconnu dans le monde, c'est certain. Moi-même, je suis en contact avec plusieurs personnes de différents pays qui se consacrent à la reconstitution paléontologique et ils m'ont tous confirmé qu'ils le connaissaient et qu'ils l'admiraient, notamment au niveau de la peinture. Car Burian n'était ni paléontologiste ni anthropologiste, il se laissait conseiller par des spécialistes. Il était avant tout peintre. À présent, des centaines de peintres renouent avec sa création, surtout dans les pays anglo-saxons, où la reconstitution de la préhistoire est à la vogue grâce au cinéma. Pour eux, c'est un job comme un autre.
Jako obyčejný job pro ně. Pro Čechy, vzhledem k tomu, že nemáme moře a že nemáme pralesy, tak si myslím, že to je obrovská...
Pour nous, les Tchèques, qui n'avons pas de mer et pas de forêt vierge, nous sommes sensibles surtout au romantisme que dégagent les peintures et illustrations de Burian. Il nous laisse rêver, c'est tout. Il nous fait découvrir un monde inconnu et développe notre fantaisie. Mais contrairement à la création contemporaine, il n'y a rien de violent ou sanglant dans ces images. Elles ont quelque chose de gentil, d'apaisant.
L'exposition de Zdeněk Burian au manège du château de Prague, visitée jusqu'à présent par plus de 20 000 spectateurs, chiffre record selon les organisateurs, a tous les atouts pour attirer adultes et enfants. Les plus petits admireront aussi un véritable mammouth qui domine la salle, un sous-marin, un navire naufragé ou un ptérodactyle. Autant d'installations en trois dimensions qui soulignent l'ambiance. Les plus grands seront peut-être surpris de découvrir des facettes moins connues ou pas connues du tout de l'œuvre de Burian. Ses portraits nus, peintures allégoriques ou fantastiques, nature morte. Ou encore des cycles ethnographiques et géographiques où le peintre, qui de son vivant ne voyageait pas plus loin qu'en Slovaquie, a saisi avec la précision des documentaristes des images de la vie des Bushimans, tasmaniens, des chasseurs africains et des indiens. Les historiens de l'art sont presque unanimes. La création de Zdeněk Burian n'a pas influencé l'art contemporain. Certains lui reprochaient et reprochent toujours la rigidité, le conservatisme, le pathos. Une peinture trop descriptive, proche de la photographie, voire du kitsch. Un art peut-être controversé, mais pas moins saisissant pour autant. À voir jusqu'au 10 juillet prochain au manège du château de Prague.
Culture sans frontières.
Venonsku, j'ai de sa neige. Yesli, net venonsku, nefje sa neige. Vachitku, vatlamitku, venonsi. Zonke, pokonsi. Venonsku.
C'est une exposition qui réchauffe le cœur et pourtant elle se rapporte à un chapitre sombre de l'histoire tchèque. Elle est intitulée « Le film tchèque de 1939 à 1945 » et vous pouvez la visiter jusqu'à fin juillet au Musée national de Prague. Vous y verrez des affiches de films tchèques produits sous le protectorat de Bohême-Moravie, des photographies de leur tournage, des objets de l'époque, y compris un appareil de projection de 1912, des extraits de films, des marionnettes des premiers films d'animation tchèques, par exemple « La fourmi légendaire » Ferda Mravenec, et bien sûr des portraits des vedettes du cinéma tchèque d'alors, de tous ces acteurs immortels que l'on ne se lasse pas de voir et revoir aujourd'hui sur le petit écran. À titre d'exemple, Hugo Haas, acteur d'origine juive, chassé du pays à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
« je ve mně zmatek veliký. Teď chápu, co se říká. Láska, že nezná okliky, na první pohled, že vzniká. Mně jeden pohled nestačí, chci jich mít tisíc do roka. Nebojte se, já nepláči. Mně padlo něco do oka.
Dans l'entre-deux-guerres, l'industrie cinématographique tchèque était florissante. La principale société de production et de distribution, Lucerna Film, dirigée par Miloš Havel, oncle de l'ex-président tchèque, fabriquait dans les nouveaux ateliers de Barrandov une cinquantaine de films par an et n'avait presque pas de concurrents dans le pays. Dès le début de l'occupation nazie, les Allemands s'emparent de ce royaume du cinéma avec l'intention d'en faire le Hollywood allemand. Plus de 80 films allemands destinés au public du Troisième Reich y ont été tournés entre 1940 et 45. Le nombre de nouveaux films tchèques a baissé à une vingtaine en 1940, puis à une dizaine en 1941. La plupart d'entre eux sont connus et aimés jusqu'à nos jours. Libor Jun, commissaire de l'exposition au Musée national, vous en dit plus.
Česká kinematografie, která byla skutečně velice kinematografií rozvinutou před válkou, která měla i tradici.
La cinématographie tchèque, forte et anti-nazie avant la guerre encore, a dû surmonter plusieurs obstacles auparavant inconnus. Tout d'abord, elle a dû se plier à la censure très stricte, s'habituer à l'oppression politique sous forme différente, à l'antisémitisme aussi. En même temps, cette ambiance particulière a favorisé la recherche de nouveaux thèmes, de nouvelles approches du cinéma, ainsi que la parution, pas vraiment de critiques, mais disons de commentaires très intéressants sur les films et d'ouvrages spécialisés sur le film et l'art dramatique.
Odborných, literárních záležitostí věnovaných filmu, herectví a tak dále.
Dejte si radit, to nemůže nikdy vadit, když se někdo umí všemu smát. Ten, kdo se směje, ať se děje, co se děje, o tom víte, že má život rád. Vždyť přece smíchem jde vždycky ze všeho se dostat ven. Smích ten je lidský, začněme s ním každý den. Jo, dejte si radit, to nemůže nikdy vadit, když se dovedete všemu smát.
Pour ce qui est de la production nationale, les cinéastes tchèques se sont inspirés dans leurs films de l'histoire nationale, des œuvres classiques de la littérature tchèque. Je pense à l'adaptation particulièrement réussie de Babička, Grand-mère, roman de Božena Němcová, porté à l'écran en 1940 par František Čáp. Mais le genre le plus prisé était sans doute la comédie, légère et anodine. Et d'ailleurs souvent bien faite, comme par exemple le film Christiane avec le grand charmeur Oldřich Nový dans le rôle principal. Acteur qui a passé la fin de la guerre dans un camp de concentration. Le costume qu'il portait dans la comédie Christian, en tchèque Christian, est aussi à voir au Musée national. Voici une chanson de ce film, Oldřich Nový alias Christian, homme qui mène une double vie, celle d'un fonctionnaire et celle d'un séducteur irrésistible.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš, nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc o ničem netoužit.
Oldřich Nový à la fin de cette culture sans frontières. Merci de l'avoir suivi. Notre programme se poursuit.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc, Alain Slivinsky.
Qui n'a pas lu dans les années 50 en France le roman relatant les évasions spectaculaires du baron de Trenck, un chef de pandour, comme on les appelait, des soldats réputés féroces et avides de sang, en fait des sortes de soldats à gages opérant un peu dans toutes les armées des princes et rois d'Europe. Ce n'est pas du baron de Trenck lui-même que nous allons parler dans la rubrique touristique de cette semaine, mais d'une des prisons où il a été détenu et où il a trouvé la mort. Cette prison, c'est celle de la forteresse ou citadelle du château qui domine la ville de Brno, le chef-lieu de la Moravie. Le Spielberg, aujourd'hui le siège du musée de la ville de Brno, a eu une histoire mouvementée. Revenons un peu dans le passé. Le château, qui a toujours eu l'apparence d'une citadelle, d'une place forte, a été fondé par le roi de Bohême, Przemyslid d'Otakar II, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Brno se trouve dans un environnement relativement plat, mais presque dans le centre se trouve un éperon rocheux. C'est lui qui a été choisi pour y construire le château en raison des possibilités de défense qu'il offrait. Spielberg, en allemand Spielberg, Berg pour dire colline ou montagne, était le nom de l'éperon rocheux à l'origine. Ensuite, il donna son nom au château. En 7 siècles de son existence, il a changé d'apparence avec une reconstruction à l'époque du baroque. Au début, il représentait une place forte importante du royaume de Bohême. Il faisait partie des châteaux royaux. Il perdit un peu de son importance par la suite. Il fut relégué au rôle de château provincial, des margraves moraves, et devint plus tard une énorme forteresse baroque pour être transformée sous l'Empire austro-hongrois en prison et caserne. Le Spielberg s'est rendu tristement célèbre par son surnom « la geôle des nations ». Le château en tant que citadelle a joué un rôle militaire important pendant les guerres hussites déjà, mais aussi lors des guerres entre les souverains du XIVe et XVe siècle. Il servit de refuge imprenable au roi de Bohême, Georges de Podiebrady, lors de ses combats contre le roi hongrois, Matthias Corvin. À la fin du XVe siècle, il commence à être délaissé, et en 1560, il est même racheté par les États de la ville, afin qu'il ne soit pas vendu à un seigneur étranger. Les États, ayant du mal à l'entretenir et même à l'utiliser convenablement, le revendent, 60 ans plus tard, à la ville de Brno. Après la bataille de la Montagne Blanche, le château du Spielberg est confisqué par l'empereur Ferdinand II et redevient donc une propriété royale. Au cours des siècles, les fortifications, en même temps que celles de la ville de Brno, furent renforcées, bien qu'il ait été assez endommagé pendant la guerre de 30 ans. Il a connu sa plus grande gloire militaire en 1645, lors du siège de Brno par les armées suédoises. Sous le commandement du colonel Raduy de la Souche, le Spielberg résista au siège pendant 3 mois, faisant ainsi ses preuves de forteresse imprenable. Même après les reconstructions ultérieures, à l'époque du baroque surtout, il conserva son caractère de place forte, faisant partie du système de défense de l'Empire austro-hongrois. Brno, sous l'Empire austro-hongrois, était une ville de garnison surtout. Le Spielberg était une grosse caserne, mais il est devenu célèbre plutôt en tant que prison. En effet, de grosses casemates avaient été construites dans le rocher. tout comme des centaines de mètres de couloirs souterrains qui conduisaient non seulement aux entrepôts de munitions ou de produits alimentaires, mais aussi aux geôles. Le Spielberg était la prison la plus redoutée de l'Empire. La liste des prisonniers qui ont passé de longs séjours dans les geôles du Spielberg est longue. Elle commence par les rebelles qui avaient voulu résister à l'Empire austro-hongrois lors de l'insurrection des États au début du XVIIe siècle. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la forteresse de Brno prive de liberté les ennemis de l'Empire, non seulement donc des prisonniers de droit commun, mais aussi des personnalités, surtout des militaires, par exemple les généraux Bonneval et Wallis, et le fameux baron de Trenck dont nous avons parlé au début. Selon la légende, ce dernier aurait parvenu à s'évader, mais les chroniques sont impitoyables. Le baron de Trenck est décédé dans les casemates du Spielberg en 1749. La citadelle perd de son importance militaire après les guerres napoléoniennes. Napoléon Ier y contribua, après la bataille d'Austerlitz, Slavkov en Tchèque et qui se trouve non loin de Brno, en ordonnant la destruction d'une partie des remparts et murailles. Le Spielberg devient vraiment la prison des nations au XIXe siècle, avec l'emprisonnement dans ses murs des résistants à l'Empire austro-hongrois qui s'acheminait vers sa chute. Cet empire étant multinational, on laisse croupir dans les geôles du Spielberg les opposants de toutes les nationalités, aussi bien les révolutionnaires italiens que leurs 200 collègues polonais. Le château du Spielberg s'est encore inscrit deux fois dans l'histoire, malheureusement toujours en tant que prison. Lors de la Première Guerre mondiale, on y enfermait les soldats récalcitrants et les prisonniers de guerre. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les nazis allemands y enfermèrent plusieurs milliers de patriotes tchèques et moraves. Le Spielberg devint ainsi une prison de transit avant l'envoi dans les camps de la mort nazie. Pourtant, dans les années 1939-1941, les occupants nazis effectuèrent de grands travaux de reconstruction. Le Spielberg devint une caserne modèle dans l'esprit de l'historisme romantique de l'idéologie du Reich allemand de l'époque. Après la guerre, en 1959, l'armée tchécoslovaque quitte définitivement la forteresse. En 1960, le Spielberg devient le siège du musée de la ville de Brno. Du point de vue architectonique, le château du Spielberg, en style gothique à l'origine, présente encore aujourd'hui beaucoup d'éléments de la reconstruction baroque. Pourtant, la plus grande intervention dans l'architecture d'origine a eu lieu à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, le Spielberg présente une apparence peut-être encore plus gothique qu'à l'origine. Toute une aile a été surélevée et on a élevé aussi l'énorme toit, ce qui change l'image de la dominante de la ville de Brno. Des fouilles archéologiques ont mis à jour les fondations d'un énorme donjon circulaire que les touristes peuvent admirer lors des visites guidées. Celles-ci vous conduisent dans les parties baroques, surtout les fortifications de tout type qui se sont conservées avec leurs bastions, courtines et autres. Au Spielberg se trouve aussi probablement le puits ancien le plus profond de Brno. Il avait une profondeur de 40 mètres à l'origine, mais en 1717, il fut approfondi pour atteindre la nappe d'eau souterraine à une profondeur de 114 mètres. Avouez qu'à cette époque, c'était un exploit. Nous vous recommandons d'ailleurs la visite des casemates surtout. Aujourd'hui, le château du Spielberg est pleinement utilisé pour les besoins du musée de la ville de Brno. On y organise un grand nombre d'expositions de toutes sortes. Certains espaces sont utilisés comme salles de représentation. En été, des tournois historiques y sont organisés. Et de l'époque du baron Trenck, il reste les murailles muettes, mais aussi le cliquetis des armes, des épées et autres instruments de mort du Moyen-Âge, lors des reconstitutions de combats de chevaliers. Nous vous recommandons particulièrement la promenade à pied du centre de Brno par un large escalier avec d'énormes marches assez plates qui ne vous fatigueront pas du tout pour monter au sommet du rocher du Spielberg, au château du même nom. Vous y découvrirez un magnifique panorama du chef-lieu de la Moravie, Brno, et de ses environs. C'est la fin de cette balade au château du Spielberg, le château de Brno en Moravie, et c'est aussi la fin de nos émissions en langue française sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.